Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Journée spéciale sur l'antenne de France Culture. Que faisons-nous au débat public? Et depuis quelques mois, le débat public en France est largement dominé par la crise sanitaire. Et preuve est faite, si besoin était, que la science peut elle aussi être sujette à controverse. Dans une époque où le débat vire rapidement à l'invective, où l'échange des idées tourne immédiatement à la crispation, la recherche sur le Covid n'a pas échappé au lot commun, à la confrontation entre faits et opinions. Mais après tout, n'est-ce pas ce que raconte toute l'histoire des sciences? Galilée et Copernic ne se sont-ils pas fracassés sur le mur de l'idéologie? La science n'a-t-elle pas, de tout temps, eu des comptes à rendre aux croyances? La science dans l'arène publique, c'est le programme argumenté qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour réfléchir ensemble, posément et sans hausser le ton à la nature du débat scientifique en temps de crise sanitaire, nous avons le plaisir de recevoir très calmement Étienne Klein. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Producteur de la Conversation scientifique, philosophe des sciences, également auteur de Je ne suis pas médecin, mais et Le goût du vrai aux éditions Tract Gallimard. Anne Goffard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, virologue au CHU de Lille et enseignante à la faculté de pharmacie de Lille. Et Yves Agide, bonjour.
Bonjour.
Neurologue, neuroscientifique, fondateur de l'Institut du cerveau et signataire de la tribune Covid-19, remettons de l'humilité dans le débat, publié le 9 octobre dans Libération. Mais comme chaque vendredi, on commence par le tour de l'actualité scientifique de la semaine avec Natacha Triou et le Journal des sciences. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature et le premier supraconducteur à température ambiante.
Les supraconducteurs, ce sont des matériaux qui ne montrent aucune résistance électrique de façon à ce que l'électricité puisse les traverser avec une efficacité proche de 100%. Mais ils ne fonctionnent qu'à basse, très basse température. Ça fait une dizaine d'années que l'on recherche un supraconducteur à température ambiante et que l'on pourrait déployer à la pression atmosphérique. Ce serait un bond technologique majeur. Des chercheurs américains ont découvert qu'un assemblage d'hydrogène, de soufre et de carbone devient un supraconducteur à 15 degrés Celsius, sous des pressions en revanche très élevées, hein, d'environ 300 gigapascales, c'est-à-dire à peu près 3 millions de fois la pression à laquelle nous vivons. Pour la première fois, un matériau devient un supraconducteur au-dessus de 0 degré. Ces résultats ont encore besoin d'être confirmés, mais si c'est le cas, c'est un jalon important qui vient d'être franchi. Marie-Aude Méasson est chercheuse CNRS à l'Institut Nel à Grenoble.
Les deux mesures que eux ils ont employées pour mettre en évidence cet état quantique supraconducteur, c'est une mesure de transport électrique et une mesure qu'on appelle la susceptibilité magnétique. Donc la première mesure permet de montrer que le composé est effectivement un super conducteur, c'est-à-dire que les électrons dans la matière vont circuler sans aucun frein. Et la deuxième propriété, qui s'appelle l'effet Meissner, est la capacité de ce matériau à repousser tout champ magnétique qu'on lui appliquerait. Et en combinant et en prouvant, en montrant ces deux expériences qui sont vraiment des expériences de haut vol, on peut en conclure que le matériau est bien devenu un supraconducteur. C'est un jalon important parce que ça montre que c'est possible d'atteindre cet état supraconducteur à de telles hautes températures. Alors que par exemple, il y a 20 ans, j'irais peut-être plutôt 30 ans, les gens affirmaient qu'on ne pouvait pas dépasser 30 Kelvin. Donc 30 Kelvin, on est à moins de 140 degrés Celsius. Donc, pour l'instant, ces matériaux, ne sont pas stables lorsqu'on relâche la pression, c'est-à-dire que ce ne sont pas des matériaux métastables. En revanche, ces études ouvrent une voie pour mieux comprendre quelle est l'origine de la supraconductivité dans ces matériaux et pour éventuellement prédire des matériaux qui pourraient être supraconducteurs à des pressions plus faibles, tout en restant à des températures de transition très élevées. Et éventuellement, le Graal serait d'atteindre un matériau qui serait métastable, donc à pression ambiante, métastable, mais toujours en restant supraconducteur au-dessus de 0 degré Celsius.
En bref, une étude parue dans la revue eLife vient de percer les mystères de la régénération d'une petite méduse, Clitia hémisphérica.
Et même lorsqu'elle est déchiquetée par un prédateur, la petite méduse Clitia a la capacité de se régénérer. Lorsqu'elle est coupée en deux, en quatre ou même en huit, l'animal se reforme en autant de petites méduses et elle reprend sa forme en quelques heures. Une équipe du CNRS a étudié des milliers de méduses découpées. Dans un premier temps, elles reprennent leur forme dans un mécanisme cellulaire proche de la cicatrisation telle que nous la connaissons. Ensuite, ce sont les muscles qui régulent le remodelage et qui se réorganisent en fonction des tensions qu'a provoqué la blessure. Grâce aux fibres musculaires adjacentes, la méduse peut rapidement régénérer sa bouche.
On poursuit avec une étude parue dans la revue Neuron. Les chercheurs ont suivi en temps réel l'activité de la dopamine et de la sérotonine dans le cerveau.
Une équipe britannico-américaine s'est intéressée à la transmission de ces deux messagers chimiques chez des patients éveillés alors qu'ils étaient en train d'effectuer une tâche que l'on appelle une tâche perceptuelle de prise de décision. C'est-à-dire que les patients voyaient quelque chose sur un écran et devaient déterminer ce qu'ils venaient de voir. L'expérience a été réalisée directement dans un bloc opératoire. Les chercheurs ont utilisé des électrodes qui leur ont permis de mesurer le signal électrique des neurones en intracérébral, directement dans les neurones. L'activité de ces neurotransmetteurs a donc été suivie en temps réel et elle n'est pas tout à fait celle que l'on attendait. Maud Baudouin-Gobert est chercheur postdoctoral au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
Les auteurs du papier utilisent des électrodes un peu particulières et en fonction du changement de signal électrique qui est mesuré, ils ont tout un arsenal mathématique de modélisation qui leur permet d'identifier le messager chimique qui a été libéré à tel ou tel moment de la tâche. Et c'est donc vraiment une mesure d'un signal électrique qui est ensuite transformé, qui est modélisé pour savoir si c'était donc de la dopamine ou de la sérotonine ou les deux en même temps qui étaient libérés. Vraiment la découverte principale du papier de cet article, c'est l'implication de ces deux messagers chimiques dans la perception sensorielle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à présent, on avait cette image de la dopamine et de la sérotonine qui étaient donc deux messagers chimiques impliqués dans les aspects de motivation, de récompense. C'est-à-dire qu'ils étaient libérés lorsque on obtenait quelque chose. Et traditionnellement, on disait que quand on obtenait quelque chose de positif, il y avait libération de dopamine, et quand on obtenait quelque chose de négatif, c'était en lien avec une libération de sérotonine. Et en fait, ce que les auteurs montrent dans ce papier, c'est qu'il y aurait déjà libération de ces neurotransmetteurs vraiment très tôt dans la tâche comportementale qu'on demande aux patients de faire, lorsqu'il y a une notion de perception sensorielle. Et que la sérotonine, notamment, serait impliquée dans l'incertitude de perception. C'est-à-dire quand on voit quelque chose, mais on n'est pas très sûr de ce qu'on a observé. Cette étude met en avant le fait qu'on peut avoir des libérations de dopamine et de sérotonine qui encodent une information qui n'est pas en lien avec la motivation et avec la récompense, mais vraiment plutôt en lien purement avec la perception, avec les informations sensorielles qu'on reçoit. Et ça n'avait jamais été démontré de cette manière-là chez des humains.
En bref, selon une étude parue dans Evolution Letters, les crapauds s'hybrident, même avec une farandole de chromosomes sexuels différents.
Oui, chez les mammifères, vous devenez un mâle lorsque vous héritez du gène Y de votre père. C'est le XY masculin. Et si vous héritez de son gène X, vous devenez une femelle, XX. Chez les oiseaux, c'est l'inverse. C'est la mère qui possède deux chromosomes sexuels différents, les chromosomes Z et W. Et pour les amphibiens, eh bien, tout est possible. Une équipe franco-chinoise a étudié des lignées de deux espèces de crapauds. L'analyse génétique révèle que le crapaud épineux a des chromosomes XY, tandis que son cousin, le crapaud commun, utilise lui des chromosomes ZW. Voici un exemple de plus de la flexibilité sexuelle des amphibiens.
Cette semaine, dans le Journal des Sciences, nous avons parlé de la spaghettification d'une étoile par un trou noir, des anciennes traces d'eau à la surface de l'astéroïde Bennu, de la plus grande analyse épidémiologique sur le Covid-19 en Inde, mais également cette semaine dans l'actualité scientifique, Natacha est en ultra bref.
Au pic du midi, le télescope Bernard Lio s'offre une seconde jeunesse. Construit il y a 40 ans, l'observatoire expérimente un nouvel instrument astronomique, le NeoNarval. Avec son spectropolarimètre ultrasensible, combiné à la vélocimétrie, l'instrument peut mesurer les mouvements imperceptibles d'une étoile, de quoi détecter la présence d'exoplanètes. Les habitants de Singapour peuvent utiliser la reconnaissance faciale pour toutes leurs démarches administratives, les déclarations d'impôts, les demandes de logement, etc. Cela s'appelle SingPass Verification. L'État pense étendre ce système biométrique aux banques en ligne ou pour faire l'appel dans les écoles. Des associations de défense des droits humains s'inquiètent d'une surveillance de masse des Singapouriens. Et enfin, deux études parues hier prouvent que les données de smartphones peuvent être utilisées pour prédire efficacement les épisodes de rechute chez les patients schizophrènes. Un algorithme de machine learning a analysé la fréquence et la durée des appels. L'IA a pu repérer les anomalies comportementales un mois avant une rechute.
Et on termine comme chaque semaine par notre rubrique de science improbable. Cette semaine, Natacha, selon une étude parue dans Proceedings of the Royal Society B, certains animaux peuvent utiliser l'os de leur pénis pour extraire le sperme d'un rival.
La plupart des mammifères ont un baculum, le fameux os pelvien qui se trouve dans le gland du pénis et que l'espèce humaine a perdu. Une équipe britannique a examiné le baculum de 82 espèces, chiens, loups, lions, ours, morses, visons et même des loutres. Et selon eux, la forme de l'os du pénis, en pointe ou en crochet, pourrait jouer un rôle dans ce qu'ils appellent la compétition sexuelle post-copulatoire. Par exemple, le baculum du blaireau au miel ressemble à une cuillère à glace. Il semble être conçu pour évacuer les autres spermatozoïdes qui seraient présents avant lui. Ces formes complexes des os du pénis sont peut-être un moyen pour les mâles d'assurer leur paternité.
Et que mes prochains rivaux prennent garde. Merci beaucoup Natacha et à la semaine prochaine pour la prochaine Journal des Sciences. Jamais la science et la médecine n'ont occupé autant de place dans le débat public. Elles occupent les plateaux télé, déferlent sur les réseaux sociaux, monopolisent les médias et envahissent même nos conversations quotidiennes. Nous, médecins et chercheurs, devrions en être enchantés. Hélas, trois fois hélas, ce déferlement se fait en dépit du bon sens, dans une confusion générale qui voit les médias s'improviser experts sanitaires et les scientifiques eux-mêmes disperser leur précieux savoir en commentaires qui roulent et se contredisent, se dispersent et se rétractent d'une chaîne, d'un journal, d'un réseau social à l'autre, laissant le citoyen assommé d'informations incomplètes et d'affirmations péremptoires. C'est un extrait de la tribune Covid-19, remettons de l'humilité dans le débat, publié le 9 octobre dernier dans Libération, co-signé notamment par l'un de nos invités, Yves Agide. Tribune qui résume parfaitement, à mon sens, à quel point le débat scientifique autour de la crise sanitaire actuelle a produit de la confusion, de l'incompréhension, du vacarme, devenu parfois inaudible pour nos concitoyennes et nos concitoyens, comme en atteste ce petit montage extrait de quelques-unes de ces empoignades télévisuelles.
Ça va dans tous les sens. Dis, il faut laisser filer le virus. On laisse filer
le
virus.
Parle
laissez-moi
ici
finir,
de la
laissez-moi finir. Vous allez comprendre ce que je veux dire.
C'est la popularité qui soigne, Didier Raoult.
Non, c'est moi qui soigne.
Bon,
c'est pas vous non plus qui
soignez.
Non, vous avez déjà soigné quelqu'un dans votre vie.
Moi, je suis pas.
Vous avez sauvé quelqu'un dans votre vie. Alors, calmez-vous.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser mourir les gens aux portes des services de réanimation? Qu'est-ce qui va se passer? On va fermer le pays.
Calmez-vous.
Non, mais Didier
d'accord.
Raoult,
non, écoutez, calmez-vous.
Calme.
Non, mais donc m'expliquez pas la médecine et m'expliquez pas ce que c'est soigner les gens.
Je
n'ai fait que soigner les gens.
Plutôt que de dire n'importe quoi,
de Pasteur,
réfléchissez
vous nous
le coup, à ce qui va se passer dans 15
vous
jours,
refaites
3 semaines.
Le coup des prédictions apocalyptiques.
Je vais soigner les gens, mais si vous ne faites pas le diagnostic des gens, vous ne pouvez pas les soigner.
Je ne vous mets pas
en doute
vos qualités de médecin.
Donc, ce que je vous ai dit, et ce que je vous répète, et n'en faites pas de déduction foireuse, je vous ai dit, quand on dit aux gens, ne faites pas de diagnostic, restez à la maison et que le message du SAMU...
Maintenant, il dit qu'il va y avoir un plateau, alors que c'est ce que je dis depuis un mois. Donc,
je vous dites
n'importe quoi et
je vous
osez
dit,
venir... En plus,
je vous ai
du
dit
vent, il n'y a pas
début,
de fond.
On ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter
alors,
dix fois, puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis.
Ne partez pas, j'ai des questions à vous poser.
Mais posez-moi des questions intelligentes et arrêtez de me répéter les choses. Alors est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens? C'est pas, ça n'est pas intelligent.
Ne me dites pas que je ne pose pas des questions intelligentes.
Si, je vous le dis.
Le respect des interlocuteurs qui sont sur ce plateau. Pas besoin de jeter des anathèmes et des noms d'oiseaux.
Voilà, extrait de notamment du débat entre les docteurs Blachier et Toussaint, animé par Laurence Ferrari, et de l'interview de Didier Raoult par Jean-Jacques Bourdin. Peut-être simplement une réaction les uns les autres à ce montage qui est effectivement un condensé de quelques moments de crispation, mais qui, à notre sens, reflète un peu la teneur, la tonalité en tout cas des débats que l'on a pu entendre ces derniers mois sur les plateaux télé. Étienne Klein.
Oui, ça me rappelle l'étymologie du verbe débattre, qui est un mot qui, je crois, date du XIIe siècle. Débattre, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Et donc là, on parle de débat pour les discussions qu'on vient d'entendre, mais en fait, c'est pas du tout des débats. Il n'y a pas de place pour l'argumentation, il n'y a pas de respect de l'autre, il n'y a pas de ce que ce que Paul Valéry appelait la politesse de l'esprit, et on remplace les débats au sens véritable du terme par des espèces de clash dont on sait qu'ils produiront plus de succès à l'audimat que de véritables discussions ou argumentations.
Anne Goffard.
Oui, effectivement, ce qui est triste, c'est que on a des faits, on a des choses à discuter, parce que cette pandémie impacte l'ensemble de la société et pas seulement le milieu médical et scientifique. Donc il y a des choses vraiment à discuter qu'il faut mettre sur la place publique. Et là, malheureusement, il n'y a pas de discussion. On est uniquement dans l'émotion, dans l'invective, et ça ne fait pas avancer le débat, justement.
Mais Yves-Agide, finalement, puisque je citais en introduction un extrait de la tribune que vous avez co-signé, pourquoi est-ce que finalement le débat scientifique aurait échappé à ce qu'est la nature du débat public en France, c'est-à-dire effectivement du clash, comme on vient de le dire, de l'invective, de la recherche d'audimat, plus que de la recherche de débat, comme le définissait Étienne Klein.
Il y a une distance entre, d'un côté, la parole scientifique, qui doit rester un débat entre scientifiques, et la parole citoyenne. Les scientifiques sont d'ailleurs tous des citoyens, qui ne raisonne pas comme les scientifiques à partir de faits établis, d'expériences scientifiques validées. Et il y a là une distanciation. Comme vous l'avez dit il y a un instant, en tant que citoyen, on a toujours émotionnellement et intellectuellement, par notre éducation, des idées sur les choses qui peuvent se transformer en idéologie. Et ces idéologies nous habitent et nous font avoir des opinions qui ne sont pas étayées comme le sont les propos des scientifiques qui sont fondés sur la raison. Mais c'est d'ailleurs vrai aussi pour les scientifiques eux-mêmes qui ont laissé échapper la parole scientifique qui se noie. Et je pense que nous devons nous-mêmes, scientifiques, nous remettre en question. Parce que les propos scientifiques sont dilués, la parole devient inaudible, et en réalité, nous n'avons pas su faire valoir, au cours des derniers mois, très exactement ce que la science peut apporter par rapport au reste. Et voilà, donc certains scientifiques s'expriment avec des opinions de citoyens, c'est leur droit, nous avons tous des idéologies en tête, d'une certaine manière, alors que le débat scientifique devrait rester entre nous.
Ça veut dire, à votre avis, aux uns et aux autres, qu'effectivement, on a demandé aux scientifiques, pour ne pas dire les experts, qui est un mot que je n'aime pas trop, mais qu'on a demandé, finalement, à ces scientifiques de s'exprimer en dehors de leur champ de compétences, qu'on a attendu, que les médias ont attendu de la parole scientifique, qu'elle passe du côté de l'opinion, qu'elle donne un avis, Anne Goffard ?
Oui, alors ça c'est vrai, et je dirais que c'est aux scientifiques de borner son champ d'intervention. C'est-à-dire que moi, effectivement, donc je suis virologue et en plus je suis spécialiste des coronavirus, donc on m'interpelle régulièrement pour éclairer la discussion sur ce qu'on sait sur ce virus, etc. Mais on me demande aussi de, par exemple, d'intervenir sur les annonces qui ont été faites par le président de la République ou par les politiques en général. Et là, moi, je réponds, je ne suis pas là pour commenter les décisions politiques. Donc, c'est moi qui fais le choix de ne pas donner mon opinion de citoyenne, de rester strictement cantonnée à mes connaissances et à nos connaissances scientifiques sur ce virus et sur cette épidémie. Mais c'est délicat, il faut être capable de dire à un moment au journaliste ou à la personne qu'on a en face de soi, non, je ne veux pas intervenir, non, je ne participe pas à votre émission de radio, de télé ou autre, parce que j'estime que je n'y suis pas légitime.
Il y a peut-être eu, Étienne Klein, une confusion sur la nature de la parole scientifique et sur la temporalité de la parole scientifique. On s'est retrouvé pendant cette crise sanitaire, notamment au début, avec finalement une somme de connaissances très mince, très maigre, qui était en train de s'accumuler. Et donc on a demandé, les médias, le grand public ont demandé aux scientifiques d'apporter immédiatement des réponses, de trancher, de décrire un réel qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce que c'est de là que part peut-être l'incompris ou en tout cas le faux départ de ce débat scientifique qui s'est mal déroulé ?
Absolument. Et si je peux faire un commentaire sur ce que vient de dire Anne Goffard, le fait qu'elle dise non, est tout à fait salutaire, mais en même temps, le fait qu'elle dise non fait qu'elle est médiatiquement débordée par des personnes qui n'auront pas ces scrupules et qui n'hésiteront pas à commenter en donnant leur opinion de telle ou telle décision prise par le gouvernement. Et en effet, au début de l'épidémie, on avait, en tout cas c'est ce que j'ai pensé dans un premier temps, on avait une occasion unique de faire de la pédagogie de la méthode scientifique, c'est-à-dire d'expliquer jour après jour, comme Nicolas Martin l'a fait d'ailleurs sur la table de transmission, jour après jour, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, quels sont les protocoles qu'on met en place pour répondre aux questions dont nous ne connaissons pas encore les réponses. Bref, d'expliquer ce qu'est un essai en double aveugle, ce qu'est un essai randomisé, comment on utilise les statistiques, ce qu'est l'effet placebo, la différence entre la causalité et la corrélation, etc. Et au lieu de faire cela, dans beaucoup de médias, on a préféré organiser des espèces de joutes entre personnes qui parlaient au-delà de ce qu'ils savaient, puisque ce virus étant nouveau, posait beaucoup plus de questions que celles auxquelles on pouvait répondre. Et je pense que la confusion a été entretenue par le fait que nous avons confondu science et recherche, qui sont deux choses complètement différentes à mes yeux. La science, c'est un corpus de connaissances établi, étayé par l'histoire des idées, par des expériences, par des théories, par des tentatives de réfutation, par des discussions au sein de la communauté scientifique qui ont validé ces résultats, et on n'a pas lieu, sauf preuve du contraire, de les mettre en doute. Par exemple, la Terre est ronde, l'atome existe, l'univers observable est en expansion, l'activité humaine modifie le climat, voilà des résultats scientifiques qui font corpus. Simplement, ces résultats qui font corpus posent eux-mêmes des questions auxquelles nous ne savons pas répondre. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Et le fait d'avoir amalgamé les deux fait que le doute qui est inhérent à la recherche a été transposé à la science elle-même. Et en résumant les deux, on dit bah la science c'est le doute. Mais si la science c'est le doute, alors je peux utiliser mon ressenti, mes opinions, mes croyances, les informations dont je dispose pour critiquer ce que disent les scientifiques. Et c'est d'autant plus facile que les scientifiques que je vois à la télévision ne sont pas d'accord entre eux. Donc pourquoi est-ce que moi je ne donnerais pas mon avis dès lors que la confusion a l'air d'être absolument générale? Et ça, ça a, à mon avis, eu un effet pervers qui est qu'une partie de l'opinion s'est sans doute laissée abuser et considère que la science est finalement un système de croyances particulier. Et du coup, on n'a pas lieu d'accorder de crédit à ce que disent les scientifiques. Nicolas, dans votre présentation, vous avez dit la science a des comptes à rendre aux croyances. Moi, j'inverserai le propos. Je pense que certaines croyances ont des comptes à rendre à la science.
C'est-à-dire
c'est par exemple, si vous pensez que la Terre est plate, vous devez vous justifier. Et d'ailleurs, les platistes, comme vous le savez, sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux à expliquer leurs arguments. Il y a beaucoup plus d'arguments présentés là pour nous expliquer que la Terre est plate que d'arguments qui disent, qui démontrent que la Terre est ronde. Et donc, je pense qu'on a donné l'impression qu'il fallait mettre la science pendant cette période sous la coupe de l'opinion. Et je pense que ça sera difficile de rattraper cette mauvaise tendance. Et je pense que nous, scientifiques, nous allons devoir réfléchir à notre façon de transmettre nos connaissances et de montrer ce par quoi elles se distinguent des croyances. Et je pense aussi que cette distinction que j'évoquais entre recherche et science devrait être mieux prise en compte pour que, quand on invite un expert, on lui demande de dire ce qu'il sait et aussi ce qu'il ne sait pas. Mmh. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on justifie que la science, c'est non pas la vérité, parce que c'est un mot un peu trop fort, mais la science, c'est quand même la bonne façon de répondre à des questions qui sont bien posées. Voilà. Quand on a trouvé cette bonne façon, bah, la recherche, elle va essayer de répondre aux questions qui continuent de se poser par des protocoles particuliers. Et le dernier point, c'est que pendant cette période, on a donné l'impression que la science était une affaire personnelle. On a vu des scientifiques parler en leur nom propre, dire leurs résultats sur Twitter, alors que normalement, un résultat scientifique, il doit avoir été obtenu par un protocole qu'on a explicité. Une fois que les résultats sont obtenus, on doit les présenter à d'autres chercheurs qui travaillent sur des questions voisines et qui s'intéressent aux mêmes problèmes. Il y a souvent des discussions, des disputes. Et à la fin, si tout cela se produit correctement, et ça prend beaucoup de temps, et c'est là que la temporalité devient une affaire importante, à la fin, on peut dire qu'ils ont réussi à faire parler un bout du réel. Et une fois que ce bout du réel a parlé, alors n'importe quel scientifique peut prendre la parole et dire « voilà ce qu'on a obtenu comme résultat ». Et au lieu de faire cela, on a vu des gens exprimer sur leur compte Twitter leurs résultats, comme si leur démarcation par rapport à la communauté scientifique était la preuve de la justesse de leurs propos.
Mais en même temps, alors il y a plein de choses très intéressantes sur lesquelles j'aimerais entendre vos réactions, Yves Agide et Anne Goffard. Mais alors sur ce que vous venez de dire à l'instant, Étienne Klein, ce que vous, c'est-à-dire ces résultats publiés sur Twitter ou sur des vidéos YouTube, on a connu ça de tout temps. On peut repenser par exemple à la cyclosporine annoncée sur le parvis de l'hôpital par Philippe Even. Et il y a toujours eu ces tentatives de prise en otage de l'opinion publique ou de l'opinion médiatique par des chercheurs qui contournent et qui prétextent l'urgence pour dire il y a urgence à publier et à donner des résultats immédiats alors que ces résultats n'ont pas été validés par un protocole scientifique. La question que je voudrais vous poser, c'est que finalement, dans ce distinguo qu'il y a entre la recherche et la science, il y a aussi un impensé ou un incompris de la part du grand public qui est que le grand public attend de la science, peut-être par défaut de culture scientifique, qu'elle définisse le réel, qu'elle dise ceci est vrai ou ceci est attesté. Or, la recherche est un endroit de débat, de discussion, de controverse, et c'est ce qui a été le centre du débat public et ce qui a donné lieu du coup à de l'incompréhension. Donc comment est-ce que les scientifiques aujourd'hui peuvent se débrouiller de cela, c'est-à-dire de rappeler que la recherche c'est de la controverse, que la controverse est constitutive de la démarche scientifique et que ce n'est pas parce qu'il y a controverse qu'il y a antagonisme ou confusion, Yves Agide.
Vous venez de dire tellement de choses, Nicolas, que moi, ça me suscite plusieurs réflexions. La première, c'est de distinguer ce qu'est une opinion de la logique et du raisonnement scientifique. C'est très extraordinaire comment on a une conviction, psychologiquement parlant. Et ça montre que, bien souvent, l'émotion l'emporte sur la raison. Et émotionnellement, on a des opinions qui ne sont pas nécessairement fondées sur des raisonnements intellectuels. La deuxième chose, c'est que généralement le public voit la science avec des faits avérés. C'est ce que disait Étienne tout à l'heure à propos de la vérité scientifique. Il n'y a pas de vérité scientifique, la science se fait au fur et à mesure. Mais dans cette période de crise, de guerre, il faut bien le dire, infectieuse, à ce moment-là, les choses vont tellement vite. Et je crois que le public ne saisit pas bien que devant l'irruption très brutale de ce virus inconnu, dangereux mais inconnu, la science ne peut pas donner de réponse immédiate. La science se fait et donc elle avance à petits pas avec les controverses que vous avez évoquées et les scientifiques, eux, le savent ça, mais le public ne le comprend pas. Et ça m'évoque alors moi une autre réflexion importante, c'est beaucoup plus général, mais je pense que c'est important qu'on l'ait en tête, c'est que la science ne fait pas partie de la culture en fait. Et par conséquent, le public, par son éducation à l'école, au lycée, à l'université, dans les familles, dans la culture en général, le raisonnement scientifique avec, disons, des résultats qui sont éventuellement mis en question, mais qui doivent être validés, répétés, etc., avec des questions qui doivent être bonnes, des bonnes questions, parce que l'erreur, c'est que souvent la question est mal posée, ou alors que la question posée est apparemment résolue par des méthodes qui ne sont pas adaptées, etc. Enfin, je ne veux pas entrer là-dedans, mais je crois que ce serait fondamental de faire en sorte qu'un jour la science fasse partie de la culture française.
C'est ce à quoi nous nous employons sur France Culture, par ailleurs.
Merci Nicolas.
Pas que moi, plein d'autres, Étienne et tant d'autres, Aurélie Nuneau, on pourrait en citer René Friedman et tant d'autres. Anne Goffard, il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'aimerais peut-être juste entendre votre réaction à ce qui vient d'être dit par Yves et Étienne.
Ben, c'est très intéressant, effectivement. Alors, sur la différence que fait Monsieur Klein entre science et recherche, quand on l'applique là sur cette pandémie qui nous dévaste, la communauté des spécialistes en coronavirus, on avait déjà des connaissances, donc du domaine plutôt de la science. On sait ce que c'est qu'un coronavirus, on sait comment ils se transmettent, on sait quelle est leur organisation, etc. Et ça, on le savait dès le départ et c'est les informations qu'on a données. Après, il y avait effectivement tout un tas d'autres questions sur lesquelles on n'avait pas de réponse. Et la difficulté que moi, en tout cas, j'ai ressentie dès le début, c'est que nos connaissances de virologues spécialisés dans les coronavirus étaient mises en doute par des gens qui sont effectivement médecins ou scientifiques et qui pourtant ne sont pas du tout spécialistes de notre domaine ou alors on les a jamais vus jusqu'au mois de janvier 2020 dans notre communauté. Et donc, il remettait en question ce que nous, on sait, parce qu'on y travaille depuis des années et des années, sur des arguments qui étaient effectivement des opinions. Et à ce moment-là, la difficulté pour nous scientifiques, c'est comment on combat une opinion.
Ce qui est intéressant, Anne Goffard, pardon, je vous interromps, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des opinions qui ont été érigées, peut-être par manque de connaissances ou par confusion des spécialités et de la science elle-même, comme expertise. C'est-à-dire qu'on mettait face à des virologues ou à des infectiologues ou à des épidémiologistes d'autres types de, d'experts, entre guillemets, encore une fois, je prends beaucoup de précautions avec ce mot, ou d'autres types de scientifiques ou de praticiens dont l'opinion était érigée vraiment au niveau d'une expertise.
Tout à fait. Et la difficulté, et là, effectivement, il va falloir que les scientifiques se posent la question de comment on intervient dans le, dans le débat public, qu'est-ce qu'on met sur la table et comment on discute avec les gens pour qu'ils acquièrent une culture scientifique et pour qu'ils puissent prendre en compte les faits de la science. Mais nous, il faut qu'on apprenne en tout cas à réagir face à une opinion. Moi, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Et une des difficultés aussi, c'est que, voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc, cette incertitude est inconfortable pour l'ensemble de, pour beaucoup de gens. C'est difficile de ne pas savoir.
Et pour le système médiatique, par ailleurs, c'est toujours beaucoup plus difficile et beaucoup moins vendeur de dire « je ne sais pas » plutôt que de dire « je suis certain d'eux ».
Et en même temps, c'est la vie. On ne sait pas tout, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, il faut accepter qu'on ne sache pas tout, et il faut accepter d'avoir un certain degré d'incertitude dans ce qui va se passer.
On va continuer à discuter de ce débat public, de ce débat scientifique qui a été certainement un peu faussé, un peu gauchi depuis ces derniers mois. On va essayer de comprendre comment aussi y remédier, comment bien être capable, serait-on capable de recommencer à poser sur la place publique, dans les médias, un débat scientifique un peu apaisé, ou est-ce que bien c'est un travail de tantale. On en discute dans un instant. Count Basie, The Great Debate, le grand débat, c'est ce qui nous occupe au cours de cette journée spéciale. Qu'a-t-on fait au débat public sur France Culture ? Nous nous posons la question du débat scientifique, et du débat scientifique notamment lié à la crise sanitaire que nous traversons. Nous en parlons avec Étienne Klein, mon camarade producteur de la conversation scientifique, philosophie des sciences au CEA, avec Anne Goffard, qui est médecin virologue au CHU de Lille et enseignante à la faculté de pharmacie de Lille, et avec Yves Agide, neurologue et neuroscientifique, fondateur de l'Institut du Cerveau. Je le disais tout à l'heure, Étienne Klein, et j'aimerais votre réaction là-dessus, parce que je pense que c'est tout de même aussi un élément important du débat. On a souvent dit ou pensé que finalement, la science est quelque chose qui ne se débat pas ou qui ne se débat plus, puisqu'il y a un consensus, il n'y a donc plus besoin d'en débattre. Et on oppose depuis le début de cette discussion connaissance scientifique et opinion ou croyance. Mais n'est-ce pas là, finalement, la racine de l'histoire des sciences, de s'être confronté tout du long aux croyances et aux opinions? J'évoquais en introduction Galilée ou Copernic face à l'idéologie, ou en tout cas aux croyances religieuses. Et puis des exemples comme ça, on en a depuis l'aube de l'histoire des sciences. Science et croyance, c'est une opposition et un débat vieux comme le monde. C'est presque constitutif de la nature du débat scientifique, non?
Absolument, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Simplement, cette pandémie, par le côté médiatique qu'elle a eu, a montré, a révélé tout ça de façon beaucoup plus claire qu'avant. Mais en effet, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas grand-chose de neuf. Un scientifique n'est pas objectif. C'est impossible d'être objectif. tout scientifique qui est un être humain a des préjugés, a des croyances, peut être avoir tous les défauts coutumiers au genre humain, mauvaise foi, arrogance, bêtise, cupidité, aveuglement, etc. Et donc, ce qu'on demande aux scientifiques, ça n'est pas d'être objectif, c'est d'être honnête, c'est-à-dire d'accepter de participer au jeu de la science, qui est un jeu collectif, il y a des procédures, il y a des règles, on doit discuter, on doit présenter ses résultats, on doit expliquer comment on les a obtenus, et après, en effet, il y a des discussions, des controverses qui peuvent durer très longtemps. Et puis, normalement, si tout se passe bien, au bout d'un certain temps, qui, je le répète, peut être très long, on finit par savoir, ce qu'on appelle savoir. Et ce savoir, il n'est pas définitif, il doit évoluer, évidemment, mais il y a quand même des connaissances dont on considère qu'elles sont impossible à remettre en cause, en tout cas de façon scientifique. Et ce que disait Anne Goffard tout à l'heure m'a interpellé, elle dit qu'elle, qui est coronavirologue, spécialiste, a été très peu entendue. Et du coup, c'est d'autres, moins spécialistes qu'on entend, ils sont simplement plus sûrs d'eux. Et ce que j'ai trouvé bizarre au début de la pandémie, c'est que on a vu se manifester un effet qui est d'ailleurs très connu par les psychologues, qui est l'effet Dunning-Kruger. De nombre de psychologues américains qui ont étudié ce phénomène à la fin des années 1990, ils ont montré que, en fait, quand on a un nouveau problème ou quand on découvre une nouvelle discipline, spontanément, immédiatement, on se croit compétent. On a l'impression que c'est simple. Et puis c'est en travaillant qu'on se rend compte que c'est pas si simple que cela et qu'en fait, au départ, on était incompétent. Ce qui veut dire que c'est, il faut devenir compétent, c'est ce qu'ils disent, pour se rendre compte de son incompétence. Et au début, vous vous souvenez, il y avait beaucoup de personnalités, notamment politiques, qui écrivaient des tweets ou des commentaires ici ou là, ou des articles, disant « je ne suis pas médecin, mais je ». C'était un réflexe très bizarre, puisqu'ils disaient qu'ils étaient incompétents, on n'est pas médecin, ils s'étaient donc honnêtes de leur part. Et aussitôt après, ils rédigeaient une ordonnance, en expliquant ce qu'il fallait dire, penser, de tel ou tel traitement, ou de telle ou telle mesure prise par le pouvoir exécutif. Et j'observe que cet effet de Dunning-Kruger s'est déployé comme c'est écrit dans les livres, c'est-à-dire qu'on l'a vu peu à peu disparaître. Les gens, nous tous, avons finalement compris que cette affaire est diablement compliquée et en acquérant de la compétence, en écoutant les informations, en tout cas certaines d'entre elles, on s'est rendu compte de notre incompétence initiale. Et ça, c'est peut-être le signe d'espoir que je vois dans cette aventure, à savoir que nous avons acquis une forme de maturité qui nous fait nous méfier davantage de nous-mêmes lorsque nous découvrons un champ dans lequel nous sommes initialement incompétents. Et le troisième point, si j'ai une seconde, vous parlez d'opposition entre croyance et opinion et science. Moi, j'observe, et ça vaut dans d'autres débats, par exemple aujourd'hui autour de la 5G ou dans le passé autour des OGM ou des nanotechnologies, j'observe une relative décorrélation entre la militance et la compétence. C'est-à-dire que le fait d'avoir un avis tranché sur une technologie ou sur un fait scientifique empêche ou dédouane de l'obligation de s'instruire. Par exemple, moi j'ai des amis qui sont pour la 5G de façon très militante, d'autres qui sont contre la 5G de façon tout aussi militante, mais en fait très peu savent dire ce que c'est que la 5G. Autrement dit, leur jugement il est basé non pas sur une connaissance, mais sur ce que Gilbert Simondon, un philosophe de la technique, appelait le halo symbolique de ces technologies. La 5G, c'est pas simplement sa réalité technique, c'est tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle symbolise dans la conscience collective. Ça peut être la surveillance, ça peut être l'addiction aux écrans, ça peut être toutes sortes de choses. Et c'est à partir de ce halo symbolique que nous forgeons nos opinions. Et une fois que l'opinion est vraiment établie, alors nous nous sentons libérés de l'obligation d'apprendre ce que c'est. Et ça vaut, je l'ai remarqué, pour beaucoup de sujets. Et je pense que il faut en France, parce que d'autres pays y arrivent beaucoup mieux que nous, inventer une sorte d'ingénierie sociale, le mot n'est pas très beau, mais j'en ai pas trouvé d'autres, qui nous permettent de nous mettre d'accord sur la façon d'organiser un débat démocratique. Quelle est la part qu'on accorde aux experts, parce qu'à un moment ou un autre, il faut bien savoir de quoi on parle. Quelle est la part qu'on accorde à la discussion générale, parce que nous sommes en démocratie. Et quelle est la part qu'on accorde à la décision politique. Et tant que nous n'aurons pas explicité cette méthodologie, alors chacun pourra se sentir autorisé à contester les conclusions d'un débat dès lors que ce débat n'a pas suivi le protocole qu'on avait configuré à l'avance.
Mais c'est alors, je vais rebondir là-dessus, c'est très intéressant ce que vous dites, Étienne, et c'est effectivement ce que j'aimerais que nous débattions dans la dernière partie de cette émission. Comment organiser aujourd'hui, compte tenu des modalités du débat public, dont on le sait qu'il est, comme je le disais, contrarié, on pourrait dire hystérisé, ou en tout cas qu'il tend facilement, comme on l'a déjà décrit, à l'invective. Anne Goffard, vous disiez tout à l'heure que vous refusiez parfois d'intervenir sur certaines problématiques, que vous refusiez également d'intervenir dans certains médias particuliers. Se pose donc la question de comment faire pour débattre de la science. Peut-on et doit-on débattre publiquement de la science? Est-ce que l'éthique scientifique peut tenir compte de l'urgence? Et in fine, Anne Goffard, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut aller sur ces plateaux télé? Est-ce qu'il ne faut pas laisser faire la politique de la chaise vide au risque de voir cette chaise vide occupée par des gens qui seront moins légitimes et qui vont donc abîmer le débat?
Alors moi, je suis convaincue qu'il faut y aller. Ça, c'est sûr. La difficulté, c'est... Enfin, moi, en tout cas, la difficulté que je rencontre, c'est que quand j'y vais... j'essaye de m'assurer, de savoir à l'avance sur quoi on va m'interroger, de quoi on va parler, pour être sûr que j'ai bien les connaissances nécessaires pour répondre aux questions ou pour dire je ne sais pas encore, il y a des recherches en cours sur ce sujet-là, etc. Alors, il y a des médias qui refusent catégoriquement de me dire de quoi on va parler pendant l'émission, et du coup, là, j'y vais pas parce que j'estime que si on ne sait pas pourquoi on m'invite, c'est pas la peine que je vienne. Et puis, y a quelques émissions ou quelques journalistes qui, en préparant leur émission, me demandent, en insistant, de donner une opinion que je ne veux pas donner. J'ai le droit de ne pas avoir envie de donner une opinion sur mes pensées de citoyenne et mes émotions de citoyenne. Donc voilà, la difficulté, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression que, dans le grand public, les journalistes font partie aussi de ces gens qui ne savent, la plupart, hein, pas tous, qui ne savent pas que le débat scientifique répond à des règles. Parce que comme on l'a dit depuis le début, les scientifiques sont des humains comme les autres, ils ont des opinions, ils ont des croyances, ils ont des émotions, etc. Et donc si on doit publier nos articles, faire dans une qui sont revus par nos pairs, si on doit faire des essais en double aveugle, etc., avec un effet placebo, etc., etc., c'est parce qu'on sait que nous, les scientifiques, on a envie de biaiser les résultats pour qu'ils répondent à ce que nous, on a envie de voir. Et accepter ce débat scientifique avec l'ensemble de ces règles qui sont évidemment contraignantes, mais qui permettent de faire une science qui est propre et carrée, et de faire progresser la connaissance. Se confronter à ces règles-là, c'est être scientifique. Malheureusement, la temporalité de ce débat scientifique et de cette construction de la déconnaissance, il est long et il ne répond pas à l'urgence. Et ça, voilà, la difficulté, elle est là. Donc, il faut faire comprendre à l'ensemble des gens que si les sciences avancent d'une certaine façon, c'est pour répondre à des règles. Parce que depuis qu'on fait de la science, donc depuis très longtemps, on sait que nos observations peuvent être biaisées par nos émotions, par nos opinions et nos croyances. Donc, comme on a constaté ça, comme la communauté scientifique a constaté ça, elle a décidé de s'organiser et de s'imposer des règles auquel il faut se conformer si on veut le titre de scientifique.
Absolument, mais tout ça est effectivement une démarche tout à fait vertueuse, Anne Goffard, mais comment résoudre le paradoxe de dire que face à certains médias qui cherchent à recréer cette condition, ce système médiatique d'invective, de buzz, de confusion en fait, que l'on décrit depuis le début, la politique de la chaise vide, c'est accepter que ces débats se tiennent en l'absence d'une pensée justement vertueuse. Donc comment est-ce qu'on résout finalement ce paradoxe-là? On décide que bien il y a une sphère du champ médiatique qui n'existe pas, mais qui existe malgré tout pour le grand public. Vous voyez bien le paradoxe que j'essaie de pointer.
Oui, je le vois bien. Eh bien, moi, j'ai fait le choix de travailler avec des médias que j'estime, alors avec mon opinion personnelle, hein, que j'estime sérieux, parce que on prépare l'émission avant, on en discute, éventuellement je dis ce pourquoi je ne suis pas d'accord, ce que je ne sais pas, etc. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à travailler avec vous, par exemple, mais avec d'autres aussi, parce que j'ai pu constater qu'ils avaient l'air sérieux dans la façon dont ils préparaient leurs émissions, et donc je travaille avec eux. Et effectivement, j'ai fait le choix de ne pas aller sur certains plateaux parce que j'estime que c'est pas sérieux et que j'y ai pas ma place. Voilà.
Yves Agide, comment on résout ce paradoxe? Comment on évite, par exemple, Luc Montagnier qui a une tribune ouverte pour dire n'importe quoi et dont on sait que la parole va nuire au débat public?
Montagnier, je ne sais pas.
Luc Montagnier qui dit que le Covid était issu du VIH, vous le saviez. Bon.
Oui, oui, mais je ne sais pas. Bon, c'est ça. Je ne voudrais pas répondre à cette question. Nous sommes déjà suffisamment embarrassés pour cette question. Non, effectivement, la science dit ce qu'elle sait, elle dit aussi ce qu'elle ne sait pas, et c'est mal accepté. Mais ce que je trouve formidable, c'est les conséquences de tout cela. Alors, on accuse les médias. Je pense qu'il faut aussi accuser les scientifiques. N'est-ce pas? Ce qui est terrible, c'est que tous les gens qui parlent sont très intelligents. Mais ils raisonnent juste, mais ils raisonnent sur des bases qui sont fausses. Éventuellement complètement fausses ou partiellement fausses. Alors évidemment, si vous parlez d'une opinion qui est mal étayée et que vous raisonnez juste, vous arrivez nécessairement à des stupidités. Et c'est d'autant plus dangereux que on sait très bien, c'est un peu comme les rumeurs qui se transforment en médisance et puis en calomnie. Ce qui se passe à l'échelle individuelle, dans ce studio par exemple, entre vous et moi et nos amis, tout d'un coup devient collectif. Et ça s'amplifie, et ça parle, et on arrive à ce moment-là à de l'opinion, une opinion désastreuse qui n'est plus seulement individuelle mais collective. Il faut cependant dire, si je peux m'exprimer, que c'est très difficile. Madame Goffard parlait tout à l'heure, je crois, des essais thérapeutiques. Vous avez évoqué ce sujet. Il faut comprendre, c'est très difficile. N'est-ce pas? On voit, logiquement, des médecins veulent donner rapidement une réponse. Alors, ils le font le mieux qu'ils peuvent. Il y a des charlatans, mais la plupart le font avec de bonne volonté. Mais évidemment, on ne le fait pas avec toutes les précautions qui sont inhérentes à la science, qu'évoquait Étienne, c'est-à-dire des études contrôlées en double aveugle, avec des questions bien posées, etc., etc., des méthodes, une méthode scientifique très particulière. On va trop vite. Et alors, évidemment, les résultats sont incertains. La science s'exprime en probabilité. La probabilité d'avoir un mauvais résultat avec une mauvaise méthode est très grande, malheureusement. D'un autre côté, si on applique les méthodes classiques des essais thérapeutiques, c'est-à-dire des grands groupes de malades, etc., des études en double aveugle, par exemple, dans une période de crise comme celle du Covid-19, ça colle pas, parce que je vous rappelle que pour sortir un médicament, il faut 15 ans.
Bien sûr, c'est la question que je posais tout à l'heure.
Donc il faut inventer de nouvelles thérapeutiques.
Comment l'éthique tient compte de l'urgence? C'est-à-dire comment, quand on est dans une période de crise sanitaire, comment est-ce que l'éthique scientifique peut s'accommoder de l'urgence médiatique, de l'urgence d'information du grand public?
Je crois que d'abord, il faut dire qu'on ne sait pas. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Mais en même temps, il faut inventer. Il faut inventer, c'est ce que je disais à propos des essais thérapeutiques, il faut inventer de nouvelles méthodes qui permettent de répondre vite. Parce que sans ça, on s'égare.
Mais vous voyez bien qu'aucun journaliste, aucun journal, aucune radio ne va titrer en disant « c'est le journal de 8h, bonjour ». Eh bien aujourd'hui, on ne sait pas. Le système médiatique ne fonctionne pas sur l'absence de connaissances. Le système médiatique exige des réponses. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'un système médiatique et que le grand public exigent des réponses qu'on ne possède que partiellement de façon fragile?
Ma réponse à ça, ce serait que de même que nous disions tout à l'heure que le citoyen devrait intégrer dans sa culture l'idée de méthode scientifique, de même, les médias pourraient, dans leur culture, intégrer la même méthode, la même idée du raisonnement juste, mais sur des bases qui sont étayées et avec la prudence qui est inhérente à la science.
Étienne Klein, on vient de voir, ou on dresse le constat que ce débat scientifique c'est pour le moins relativement mal engagé. Comment faire aujourd'hui pour ramener de la sérénité dans le débat scientifique, dans l'arène médiatique telle qu'on la connaît, avec les travers qu'on lui connaît? Est-ce que vous imaginez des solutions?
Je crois qu'on vient de mettre le doigt sur le problème principal, hein, qui est le problème de la temporalité. La temporalité de la recherche, elle est très lente. On peut accélérer les protocoles, booster les méthodologies autant qu'on veut, mais on peut pas complètement les supprimer, sans quoi on coupe la branche sur laquelle on s'est laborieusement hissé pour devenir scientifique. Et là, il y a une contradiction. Et cette contradiction, je suis pas sûr qu'elle soit facilement soluble. En tout cas, moi, j'y réfléchis parce que je me rends compte à quel point elle est violente. Je pense que la diffusion de la science, la diffusion des connaissances scientifiques, elle est victime d'une crise de la patience. C'est-à-dire, on n'a pas le temps d'attendre que les résultats arrivent. Et même quand les résultats sont là, moi j'observe qu'on n'a même pas le temps de les expliquer. Expliquer comment un résultat a été obtenu, ça demande beaucoup de temps, ça demande d'expliciter comment on a procédé, quels ont été les biais qu'on a pu détecter, quelles sont les erreurs qu'on a commises, quelles sont les hésitations qu'on a eues, etc. Ça demande une explication très lente. Et à la fin, quand on a eu toute cette explication, on se rend compte qu'il s'agit vraiment d'une connaissance et non pas d'une croyance. Or, ce temps d'explication, nous ne l'avons plus. Vous savez, quand on a découvert le boson de Higgs, c'est un exemple qui vient de la physique, mais ça vaut pour tous les autres. On a dit, voilà, on a découvert le boson de Higgs, mais en 2012, mais on n'a jamais vraiment pu expliquer comment on l'avait trouvé. Et personne n'a douté de ce que nous disions parce qu'on nous faisait confiance et surtout parce que les implications dans nos vies de l'existence du boson de Higgs sont quasiment nulles. Il n'y a pas d'enjeu. Donc personne ne va se fatiguer à contester ce que nous disons. Mais si ce qu'un scientifique découvre modifie nos croyances ou bien nos façons de vivre, impose que nous les modifions comme ce que disent par exemple les climatologues ou d'autres, alors nous allons développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce qu'ils disent. En fait, on développe des stratagèmes pour ne pas croire ce que nous savons si ce que nous savons nous dérange. Mmh. Et je pense que là, on tombe dans une situation qu'avait prédit Nietzsche, hein, dans un livre qui s'appelle « Humain trop humain ». Il a écrit un chapitre d'une seule page qui s'appelle « L'avenir de la science », dans lequel il dit « Le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité nous garantira moins de plaisir ». Et je pense que ça, c'est une phrase qui illustre bien comment aujourd'hui nous avons tendance à déclarer vraies les idées que nous aimons, sous prétexte qu'elles satisferont nos préjugés, par exemple nos croyances. Il y a tellement de choses qui sont dites, tellement de choses qui circulent dans le système d'information, qu'en fait nous avons le choix. Nous avons le choix de décider que ce qui a été dit là est vrai, ça coïncide avec ce que nous pensons, ou ce que nous aimerions être vrai, et nous abandonnons notre esprit critique pour dire bah, c'est ça la vérité. Et il y a tellement de choix, il y a une telle offre d'opinion possible ou de croyances possibles que chacun fait son marché à partir de ce que son cerveau lui présente comme étant capable de booster son confort psychique.
Mais sur la question du débat scientifique, il pourrait y avoir aujourd'hui, compte tenu de l'état de la recherche, des débats passionnants, des débats, je ne sais pas, Anne Goffard, sur la question de l'aérosolisation, sur la question de la persistance sur les surfaces, sur la question de l'inoculum, sur la question de la contagiosité, sur ces questions qui ne sont pas encore totalement tranchées. Comment se fait-il qu'il est impossible d'organiser sereinement ce type de débat stricto sensu scientifique? Est-ce que ça ennuierait la Terre entière alors que ce sont des vraies questions scientifiques qui se posent et qui pourraient donner lieu à des controverses scientifiques, disons, vertueuses?
Oui, effectivement, surtout que depuis le mois de janvier, les connaissances ont évolué et la science a avancé. Donc on pourrait effectivement en discuter, mais manifestement, ça n'intéresse pas les gens. Parce qu'effectivement,
si, moi, ça m'intéresse.
Si on voulait le faire proprement, il faudrait développer les aspects techniques, expliquer comment on a fait, quel modèle on a utilisé, etc. etc. Et c'est un petit peu technique et peut-être que ça n'intéresse pas. Ou peut-être que nous, les scientifiques, on doit le présenter d'une façon qui soit intéressante et entendable par le grand public.
Imagine votre
non, mais c'est pas très folichon ce que vous dites.
Ah bah si,
d'aller
c'est passionnant
regarder
de savoir
pourquoi il faut s'essuyer les mains, pourquoi il faut bah, tout ça, c'est des
savoir non, qui est contagieux c'est... et à quel point on est contagieux. C'est une question intéressante.
C'est déjà plus intéressant. Mais là, on peut très bien comprendre que ces débats-là. Qui quand même n'ont pas des conséquences sociétales immédiates et importantes, peuvent rester au niveau du débat entre scientifiques. Mais le public, lui, il a besoin d'informations qui vont changer immédiatement sa vie, qui ont un impact immédiat dans leur vie de tous les jours. Donc c'est là qu'il y a cette distance qui fait qu'on ne se comprend pas. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est sur l'idée que quand même le débat scientifique, la pensée scientifique, l'esprit scientifique, la méthode scientifique ne font pas partie de notre culture. C'est vrai à l'école, et puis c'est vrai aussi pour la science. Je prends l'exemple du cerveau, moi c'est absolument extraordinaire. Quand je parle avec même des scientifiques qui sont très intelligents dans d'autres domaines, ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un cerveau. Alors pour le citoyen moyen qui sort, qui a passé le certificat d'études ou qui vient de passer son bac, c'est attristant.
Étienne Klein, pour conclure justement sur le fait de ne pas tomber dans les pires travers, dans les pièges de l'arène médiatique et du débat médiatique tel qu'il est hystérisé en ce moment, à part évidemment de se rendre chez le camarade Emmanuel Laurentin dans le temps du débat qui arrive à poser les termes d'un débat apaisé et intelligible et intelligent, quelles seraient les astuces pour éviter de tomber dans ces travers ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu une hubris scientifique de se dire que bien, les scientifiques allaient éviter ce piège de l'hystérisation alors qu'ils sont tombés les deux pieds et les deux mains dedans?
Bon, je ne sais pas répondre à la question. J'ai réfléchi depuis le début de la pandémie parce qu'en effet, la situation me semble assez grave. Je pense, par exemple, que dans la vulgarisation, des gens comme moi ont été victimes d'une forme de naïveté. C'est-à-dire que nous, on pensait que si on étudiait un problème à fond, en profondeur, alors on devient capable de l'expliquer clairement à toutes sortes de publics. Et j'observe, depuis d'ailleurs quelques années, que ça marche pas très bien. C'est-à-dire que la réception des messages est elle-même victime de toutes sortes de biais cognitifs qui font que ce qui est compris n'est pas forcément ce qui a été dit. Et donc, je pense qu'on est obligé maintenant d'inventer de nouvelles formes pédagogiques permettant de faire comprendre comment on a su ce qu'on sait. Et ça, c'est dans les médias actuels assez difficile à faire, sauf quand on a du temps de parole. Mais sinon, je pense que notre goût pour la boxe va l'emporter et que l'argumentation risque d'en pâtir. Or, je pense que l'argumentation, elle a à voir avec la démocratie, elle a à voir avec la République. C'est-à-dire qu'une connaissance scientifique, elle est républicaine, elle a vocation à devenir affaire publique. Mais elle n'est pas démocratique. Je sais que c'est un peu provocant de dire ça, mais c'est pas par un référendum ou un vote qu'on va dire si tel médicament est efficace ou si la formule E égale MC2 est vraiment exacte. Voilà, donc il y a une sorte de séparation à faire. La science n'est pas républicaine, enfin elle est républicaine mais elle n'est pas démocratique. Par contre, l'usage que nous allons faire ou nous pouvons faire des possibilités que la science nous donne, les usages notamment technologiques, ça c'est un enjeu démocratique. Et donc toute la question c'est de trouver les moyens de mettre sur pied de véritables débats, au sens qu'on a tous défini pendant cette émission, à propos de ce que nous voulons comme compagnonnage avec la technologie. Et à ma connaissance, nous n'avons pas encore trouvé les formes adéquates. Il y a eu la Convention citoyenne sur le climat récemment, qui est un bon exemple. Et moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'en a pas fait deux en même temps. C'est-à-dire que on prend 150 personnes tirées au sort, on les forme grâce à des interventions d'experts et puis on leur demande de faire des propositions. Très bien, mais il fallait en prendre deux. Un deuxième groupe de 150 personnes tirées au sort, formées par d'autres experts sur les mêmes sujets. Et ensuite, on compare les propositions du premier groupe avec celles du second. Si elles se recouvrent, c'est qu'on tient quelque chose de très solide. Si elles sont différentes, ça veut dire que on est dans l'arbitraire. Et donc, il y a une sorte d'invention là à mettre sur pied. Et la gravité de la crise qu'on a traversée, à mon avis, rend la chose nécessaire, urgente, et je ne doute pas qu'on va trouver une formule.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus parler de cette problématique qu'on entend bien complexe du débat scientifique et du débat public à l'heure actuelle. Merci Étienne Klein pour continuer à être éclairé. On peut vous lire, hein, Je ne suis pas médecin, mais et Le goût du vrai, c'est aux éditions Tract Gallimard. Merci beaucoup Anne Goffard d'avoir pris sur votre temps pour participer à ce débat. Merci Vagid. Pour aller plus loin, vous avez organisé hier soir une conférence tout à fait passionnante avec le groupe S3 Odéon autour de ces questions. Ce virus est-il exceptionnel? Vaccin et traitement, faut-il espérer une issue rapide? Et science, médias et politique, les leçons de l'épidémie, avec là un parterre qu'on vous envie, de Jean-François Adèle Fraissy, Yazdan Pana, Alain Fischer, Arnaud Fontanet, Pascal Cossard, Bruno Lina. Bref, c'est à retrouver, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Merci encore à tous les trois. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lozen, Eve Etienne, Natacha Triou, François Malordi, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Lucas Desrode à la technique. La semaine prochaine, dans les laboratoires de La Méthode Scientifique, lundi, eh bien, ce sera notre émission précisément mensuelle sur le suivi scientifique de l'épidémie de Covid. Mardi, nous irons miner dans l'espace des astéroïdes, des planètes, qui sait. Mercredi, nous parlerons de l'hydrogène comme carburant du futur. Jeudi, nous revenons sur l'histoire de la découverte des rayons X, et ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Et demain, non seulement vous pouvez retrouver le camarade Étienne Klein à 16h sur France Culture pour la conversation scientifique, mais vous pouvez également aller l'écouter. Ce sera au Théâtre de la Ville pour la journée spéciale Combat. Vous pourrez également assister à l'enregistrement de l'Esprit Public ou à une masterclass. Renseignements évidemment sur maisondelaradio.fr ou sur franceculture.fr. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.